Uh-huh.
Certains représentants associatifs. Alors, on avait voulu effectivement qu'il y ait un ingénieur sans frontières, un représentant du TC comme représentant associatif, mais ça n'a pas pu se faire cette année, ça se fera l'année prochaine. Et au moins, nous voulions développer un ancrage territorial et social au séminaire. Et donc, voilà, un collectif donc écologique et solidaire de Compiègne, malgré ma mauvaise connaissance du tissu compiègnois associatif, il a semblé que celui-ci était un bon représentant. Donc voilà, je vous cède la parole.
Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Ancien, je suis un habitant local depuis 82. Je me suis attaché à me déplacer à vélo il y a quelques années. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup trop peu de pistes cyclables et autres bandes cyclables dans le secteur par rapport à ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu dans la partie nord de la Belgique pendant 15 ans. Et là-bas, il y a cyclable partout, c'est pas un problème. Donc je me suis adressé aux politiques locaux, aux élus, pour essayer de savoir ce qui pouvait être fait, et constatant qu'un individu n'a pas beaucoup de poids, j'ai recherché d'autres contacts, d'autres personnes qui avaient les mêmes intérêts, les mêmes interrogations, et c'est comme ça que petit à petit on s'est retrouvés associés. J'ai découvert l'existence d'un collectif qui s'appelle le collectif compiègnois écologique et solidaire, qui regroupe deux entreprises et plusieurs associations auxquelles se sont ajoutées un certain nombre de particuliers dont je suis. Alors, ce collectif a pour vocation de promouvoir tout ce qui s'oriente vers l'humain, c'est-à-dire tout ce qui sera à son service sans fonctionner forcément à ses dépens. Comme par exemple, on va dire... Tous les développements technologiques apportent quelque chose de bien, mais quelquefois apportent des nuisances qu'on ne maîtrise pas toujours, qu'on connaît mal, et le principe de précaution n'est pas toujours appliqué. Donc, parmi les objectifs du collectif, on essaye de promouvoir l'alimentation biologique, le commerce équitable et tout ce qui est transport non polluant ou le moins polluant possible. Donc, à cet égard, l'exemple de Compiègne au niveau des transports publics est un très bon exemple, puisque ce sont des transports publics qui sont gratuits pour l'usager. Ça ne répond pas à tous les cas de figure de toutes les personnes qui ont besoin de se déplacer. Ça a été cité, je crois, à un moment donné. Quand on a des gens qui travaillent très tôt le matin, en dehors des créneaux horaires du transport public, ou alors en dehors de la zone de transport des bus, finalement les gens doivent essayer de trouver un autre moyen de transport. Donc souvent c'est la voiture, mais il y a des gens aussi qui sont socialement moins favorisés et qui ne peuvent pas utiliser de voiture, ne peuvent pas utiliser le bus non plus parce que ça ne correspond pas, et le vélo est une bonne alternative. Alors le collectif Compiègnois donc... est orienté à plusieurs centres d'intérêt, et pour ma part je m'occupe plus particulièrement de la partie vélo, parce que bon, on ne peut pas tout faire dans une vie, que 24 heures par jour, et puis bon, il faut bien qu'on se partage un petit peu les tâches. Alors cette partie du séminaire parle de la mobilité durable. Le vélo est un bon exemple. Alors essayer donc au niveau des initiatives de ce collectif, on a commencé en septembre 2006 par faire un sondage sur les marchés de Compiègne pendant 3 semaines, les mercredis et samedis. On avait fait un petit stand à l'entrée de la rue Sainte-Corneille qui est face à la mairie, en demandant aux gens ce qu'ils pensaient du fait de se déplacer à vélo. Que voulez-vous faire? Voulez-vous systématiquement prendre la voiture? Voudriez-vous prendre le vélo? Oui, non, pourquoi? Et c'est ainsi qu'on a recueilli 180 feuillets avec l'avis des gens. Et ce qui revient le plus souvent, c'est le problème de sécurité. Alors, on a transmis ça à l'issue de ce sondage, de cette exposition, nous avions planifié un parcours à vélo le 23 septembre 2006. C'est une date mémorable puisque c'était la venue de M. Chirac, Poutine et puis Mme Merkel. C'était pas voulu, mais bon, c'est tombé comme ça. Et on a eu la chance que la mairie n'annule pas notre périple. Il s'agissait d'un parcours vélo qui partait de l'espace Jean Legendre, le centre culturel à Compiègne, jusqu'à la mairie, enfin jusqu'à la place Saint-Jacques, précisément, où il y avait un pot d'accueil. Et le but était de montrer aux gens qu'il était possible, parfois, de se passer de la voiture. Donc, au niveau de notre action, le message qu'on essaye de passer aux gens, c'est qu'effectivement, la voiture est, dans un certain nombre de cas, un moyen nécessaire, c'est un mal nécessaire, mais ça n'est pas toujours le cas. Et finalement, dans l'état d'esprit des gens, la plupart du temps, il apparaît que les gens ne se posent plus la question. Pour aller d'un point A à un point B, quel est le moyen de transport que je vais utiliser? C'est systématiquement la solution standard, la voiture. C'est-à-dire que dans notre société, pour ça comme pour le reste, comme pour l'énergie par exemple, on ne se pose plus la question de savoir si on va essayer de trouver des moyens complémentaires pour répondre à une problématique, on essaye souvent de trouver une solution qui est la réponse à tout. Et donc la voiture, hélas, est trop souvent vue de cette manière. Donc, nous, ce que l'on essaye de dire, c'est posons-nous la question, à chaque fois qu'on a un déplacement à faire, suis-je forcément obligé d'utiliser la voiture? Alors, on fait des comparaisons avec d'autres pays. J'ai vécu donc longtemps, comme je le disais, en Belgique. Je connais bien les Pays-Bas, je connais l'Allemagne. Et là-bas, ils ont une culture tout à fait différente. Alors, il y a des problèmes de réglementation qui font qu'on ne peut pas faire la même chose ici, parce que le code de la route est différent. Ici, par exemple, d'une manière générale, il est hors de question qu'un vélo roule à sens contraire dans une rue, alors que dans d'autres pays, en Belgique par exemple, ça a été adopté au 1er janvier 2004, c'est inscrit dans le code de la route. Vous n'avez aucune signalisation, vous roulez en sens interdit par rapport au sens des voitures, c'est normal.
Simplement, moi j'ai une rue où il y a une bicyclette qui va en sens inverse de la circulation. Sans
oui, ça vous prend, il y a une bicyclette, mais à Paris, il y a certains quartiers, même comme dans le centre, où on peut même aller à contre-sens, même s'il n'y a pas de piste cyclable.
Oui, c'est récent quand même. C'est marginal.
Mais on se fait hurler dessus par les voitures qui ne comprennent pas.
Oui, puis c'est marginal quand même. C'est ça.
Mais là, il s'agit donc d'une rue dans laquelle il y a une piste cyclable qui est mise dans l'autre sens, et il y a une signalisation qui dit, en tant que cycliste, vous pouvez rouler dans l'autre sens. En Belgique, c'est la situation inverse. C'est-à-dire qu'en absence de signalisation, vous pouvez rouler en sens inverse. Simplement, vous ne pouvez pas, s'il est mentionné, que vous n'avez pas le droit de le faire. Ça fonctionne à l'envers.
Bon, je vais juste dire un petit truc pour vous donner la dimension du problème. Ce que vous dites là, c'est génial. Moi, j'ai fait un DEA sur les vélos légers et en 1975-76, il y avait M. Wolf au CETUR, que vous avez peut-être tous les écrits, qui a écrit des tonnes et des tonnes de documents comme ça. Et à l'époque, déjà, tous les guides méthodologiques du CETUR, sur 100 centres d'études sur les transports urbains, proposaient ce genre de solution. C'est-à-dire, ça fait 30 ans que tous les techniciens de France connaissent ça et savent faire ça. Hein. Et donc, mais c'est bien que vous soyez là pour dire que l'obstacle, il n'est pas technique.
Il est culturel et réglementaire.
C'est votre exposé.
Mais il est réglementaire en ce sens que c'est le maire de la ville qui est le premier magistrat et qui peut décider de faire ou de ne pas faire. Maintenant, au niveau par exemple de l'exemple belge, là ce n'est plus le maire qui décide, c'est une loi nationale. Donc, par rapport à à ce périple du 23 septembre 2006. On avait eu 50 participants qui avaient fait ce petit périple à vélo, escorté par la municipalité, hein, la police à vélo d'ailleurs de Compiègne, de façon à essayer de porter le message que effectivement il n'y a pas que la voiture, les cyclistes existent aussi, et puis il faudrait essayer de penser à se remettre en question. Dans mon cas, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, hein, c'est-à-dire de temps en temps, on ne peut pas toujours suivre les sentiers battus. Alors nous nous réunissons régulièrement de façon à essayer de toujours finalement de porter le message de l'éco-citoyenneté, de la mobilité durable. Et par exemple, donc on a à l'issue de ce périple, nous avons participé à la mairie de Compiègne à une commission de développement durable où participaient entre autres écolo d'ingénieurs de l'UTC. Et donc nous avons été, on va dire, écoutés, entendus la première fois pas sûr par nos élus, puisqu'ils nous ont dit qu'ils nous comprenaient, qu'ils étaient d'accord avec nous, mais qu'il y avait des problèmes de financement, qu'au niveau de la réalisation, ils avaient déjà pensé à un certain nombre de choses qu'ils étaient prêts à faire, mais il n'y avait pas de date. En fait, c'était ça le problème, c'est qu'ils nous disaient on est parfaitement d'accord avec vous, on va le faire, mais alors quand? Qui fait quoi, quand, comment? Si on ne définit pas ça, on ne fait rien, en général. Donc après, nous avons participé à une autre commission, une commission voirie, où là, on a de nouveau sensibilisé nos élus, Compiègne moi, en leur disant, bon, alors, on en est où? Parce que ça concerne quand même la voirie. Il s'agit de créer des pistes cyclables, des bandes cyclables, etc. Des parcs à vélo, de la signalisation, de l'affichage sur des plans en ville. Souvent, vous avez un plan en ville qui indique, par exemple, les rues, les établissements publics, etc. Si sur ces plans, vous ajoutez simplement un trait marquant les itinéraires cyclables, le cycliste va de suite savoir comment faire, ça va lui faciliter la vie. Donc ça fait partie des propositions qu'on leur a faites. Et donc là, a priori, enfin, le message qu'ils nous font passer, c'est qu'ils sont d'accord sur le principe de développer cet axe de développement sur les 5 années qui viennent. Donc affaire à suivre, et je pense qu'il faut maintenir la pression entre guillemets. Montrer toujours qu'on est présent et qu'on tient à ce que ça continue à se développer. Donc il y a un certain nombre d'actions comme ça. Ils ont confié par exemple une mission à une agence d'urbanisme, Oise-la-Vallée, de façon à déterminer un plan d'action pour savoir en fait dans quel ordre de priorité il allait falloir faire des choses, puisque bon, l'argent, il faut des moyens, il faut les mettre en place au fil des années, donc il faut bien commencer par un bout. Par où commence-t-on? Donc c'est une affaire qui est en cours. Ensuite, nous avons pensé qu'il ne fallait pas se limiter à Compiègne, puisque finalement c'est une agglomération de la région de Compiègne, et nous avons écrit en décembre 2007 un courrier sensibilisant, interpellant les élus des 14 autres communes de la région. Alors, donc, on espère. Il y a déjà. Certains élus ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Et donc, on va continuer à se mobiliser. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe finalement une loi qui s'appelle la loi sur l'air, qui date de 1996. Cette loi impose à toutes les collectivités territoriales de prendre en compte les vélos dans tous les aménagements urbains qu'ils réalisent. Et bon, là comme ailleurs, souvent, il ne s'agit pas seulement de faire des voies, il s'agirait aussi de les faire respecter, et bien souvent, ça n'est pas respecté. Vous pouvez voir certainement un certain nombre d'endroits où vous avez pu voir des travaux qui ont été réalisés. Si vous regardez bien si le vélo a été pris en compte, vous verrez que non. Très très souvent le cas. Donc il faut bien que quelqu'un, à l'occasion, rappelle aux élus qu'ils doivent aussi comment dire, respecter la loi, puisque bon, ils sont quelque part les serviteurs du citoyen.
C'est la démocratie participative.
C'est la démocratie participative.
Qui est une il y a de plus en plus de gens qui disent que justement ce dilemme des trois E, énergie, environnement, économie, finalement est un trépied trop instable et que pour le mettre sur quatre pieds, il faut lui rajouter la démocratie participative.
Mais ce
c'est une métaphore assez jolie. Hein.
Ce quatrième pied, souvent, n'est pas mis en place par les élus. Parce que ce ne sont pas eux, finalement, qui appellent les citoyens à débattre. Ce sont les citoyens, finalement, qui doivent, en quelque sorte, quasiment forcer la porte. Si on ne le fait pas, on n'est pas invité à le faire. Alors bon, les avantages, je suppose que vous êtes tous conscients, étant jeunes et en plus déjà fait du vélo, des avantages pour la santé, pour des avantages économiques, écologiques, pour le développement du commerce local, du vélo. Et donc on essaye de passer ce message à la mairie, mais on a quand même pas mal de réticences de la part, par exemple, des commerçants, qui se disent, si les gens ne peuvent plus venir à nous avec leur voiture, puisqu'ils ne veulent se déplacer qu'en voiture, ils ne viendront plus, et le commerce local est déjà en train de se délocaliser à l'extérieur, en périphérie, donc on va perdre des clientèles, on va fermer. Alors on essaye de leur faire voir qu'il y a des exemples où c'est faux. Si on prend par exemple le cas à Amiens, vous avez des rues qui deviennent piétonnes, et où le commerce est en forte croissance. Et le tout, c'est d'arriver à convaincre les élus locaux. Alors, bon, au niveau des...
Vous préférez qu'on pose des questions au fur et à mesure ou qu'on les rassemble tous à la fin?
Vous pouvez poser des questions quand vous voulez, hein, y a pas de problème. Hein.
Bon. Est-ce que dans la période électorale, justement, qui vient, vous avez réussi à avoir des élus qui sont, enfin, des élus potentiels qui s'engageaient sur ces sujets-là, ou d'un côté comme de l'autre?
Il y a des élus qui nous contactent pour savoir comment ils pourraient faire pour intégrer ce pôle de développement dans le programme. Mais le message qu'on leur donne, c'est qu'on peut les aider, leur donner des informations pour qu'ils puissent développer leur programme, mais que nous restons apolitiques. Et que nous souhaitons que notre nom ne soit pas cité dans notre programme. Il est important que, parce que bon, si je prends un exemple, un parti minoritaire qui nous citerait, qui forcément perdrait les élections, automatiquement le parti majoritaire qui prendrait le pouvoir après nous mettrait sur le côté. Il faut absolument qu'on ait ça. Alors bon, au niveau des exemples, bon, les exemples belges, j'en ai parlé. Aux Pays-Bas, au niveau des bandes cyclables, des voies cyclables, c'est de façon quasi systématique, elles sont quasi systématiquement mises à l'écart des routes. Et souvent séparées soit par un fossé, soit par une bande herbeuse, ou alors un rail béton ou en fer ou autre en fait. Il y a vraiment une sécurité maximale, et même au niveau des carrefours, au lieu d'avoir simplement, comme d'habitude, le feu tricolore pour les voitures, celui pour les piétons, vous avez aussi celui pour les vélos. Et chacun passe à son tour, donc vous avez le passage des feux qui se fait sur trois niveaux au lieu de deux. Et donc vous avez une excellente sécurité. Alors après se pose le problème de la place pour le vélo. Parce qu'on va nous dire, bien sûr, il faut de la place, il faut donc la prendre à quelqu'un d'autre. Il faut la prendre au piéton, il faut la prendre à l'espace voiture. Alors aux Pays-Bas, ils ont pris la place à l'espace voiture. Et donc on prend aussi la place de stationnement, par exemple. Alors vous avez dans pas mal de villes, le fait, au niveau stationnement des voitures, les voitures peuvent stationner seulement si elles appartiennent aux gens qui habitent dans la rue. C'est-à-dire que les gens ont une pastille sur leur pare-brise et eux peuvent se garer là, dans la rue, les autres pas. Alors ça, par exemple, ça n'est pas transposable en France. Parce qu'en France, le code de la route l'interdit. l'objet de la route, la réglementation. Donc c'est pour ça que je disais, il y a des aspects réglementaires qui font que, même avec la meilleure volonté, ici, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Alors, bon, je pourrais aussi vous parler des types de vélos. Bon, il y a tout un tas de types de vélos, dont le vélo classique qu'on connaît. Je ne sais pas si je vais l'avoir là. Alors, attendez, infrastructure. Bon.
Ça sera un vélo.
Ah, voilà. Donc bon, vous avez le vélo le mieux adapté en ville, c'est celui du dessus, hein, qui est le vélo hollandais, parce que finalement, en France, quand vous regardez pour acheter un vélo, d'une façon générale, ce sont des vélos sur lesquels vous êtes la colonne vertébrale qui est toujours plus ou moins penchée. Aux Pays-Bas, en Belgique, les vélos sont de type hollandais, je parle du vélo utilitaire, hein, pas le vélo pour aller faire des balades ou faire de la course, mais vous êtes assis droit sur votre vélo, vous avez la colonne vertébrale droite, et donc vous fatiguez beaucoup moins, c'est beaucoup plus ergonomique, c'est beaucoup plus adapté c'est beaucoup plus ergonomique, c'est beaucoup plus logique par rapport à notre morphologie en fait. Alors pour les plus grandes distances, vous avez le vélo à assistance électrique, que vous connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous, personnellement j'en ai un, je peux vous garantir que ça fait 5 ans que je roule avec ça, je ne peux plus m'en passer. Je préfère revendre ma voiture que de revendre mon vélo. Hein, donc, ça vous permet de couvrir sans problème des distances de 15 km. Ça vous coûte 5 euros d'électricité par an, à opposer au prix que vous connaissez pour une voiture. C'est pas pareil.
C'est le problème, c'est qu'en général, vous ne connaissez pas. Les coûts de la voiture.
Les coûts de la voiture.
Les coûts de coûts cachés. Si on connaît, on a l'impression qu'on analyse le coût marginal, on comptabilise le coût marginal. Ouais.
Ben le coût d'une voiture, le coût moyen, c'est de l'ordre de 5000 euros à l'année, à peu près. Donc 5000 euros à l'année, vous imaginez que si vous arrivez, par exemple, à vous passer, dans mon cas, je fais 4 à 5000 km par an à vélo. Un vélo électrique est amorti en 6 à 12 mois, suivant le modèle de vélo. Donc, reste à savoir après l'option que l'on prend. Dans mon cas, les économies que je fais me payent de magnifiques vacances chaque année.
Prendre l'avion, c'est ça.
Là, vous prenez l'avion.
Non mais les vacances d'ailleurs c'est pas forcément cher, c'est pas forcément en avion. On a accueilli au mois de juillet cette année, en 2007, on a accueilli un groupe d'une association qui s'appelle Dynamobile, qui faisait un trajet des Pays-Bas. Alors je crois qu'ils étaient partis de La Haye pour aller à Paris en passant par Compiègne. Auparavant ils passaient par Chauny, Compiègne, Senlis, Paris. Et donc ils ont fait ce périple sur une dizaine de jours. Alors ils étaient escortés par un camion qui assurait la logistique, donc avec la popote, avec les roues de rechange, bref, tout ce qu'il faut pour même la partie santé, quand quelqu'un est blessé. Et un périple de 10 jours de vacances, avec des visites, en visitant tout ce qu'il y a à visiter sur le trajet, y compris la nourriture, y compris l'hébergement, 250 euros. Alors vous voyez qu'il y a moyen de les vacances à ce prix-là. Si j'avais suffisamment de vacances et de RTT, en roulant à vélo plutôt qu'en voiture, je pourrais être en vacances toute l'année. Je ne peux pas. Voilà. Alors donc, au niveau des vélos, il existe aussi les vélos couchés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, avec ça, par exemple, il est très facile de rouler dans la partie nord de la Belgique ou aux Pays-Bas, parce que vous avez des pistes cyclables. Comme vous êtes très bas par rapport au sol, il faut absolument avoir une bonne sécurité. Ici, en France, c'est déjà plus délicat. Il faut savoir, par exemple, que c'est extrêmement performant. sans motorisation, vous roulez facilement à 30, à 30 ou 40 km/h sans gros efforts. Le record du monde de vitesse avec un vélo standard, on va dire un vélo de course type français, sur du plat sans vent, c'est 58 km/h. Avec ça, c'est 131 km/h. Donc voilà. Donc vous voyez que finalement, la notion de distance et la notion de vitesse. Non, ce sont bien des records. Mais ça vous marque que avec un vélo classique, vous roulez sans trop forcer, sans trop peiner, à une vitesse de 20 km/h, on va dire. Bon. Alors qu'avec un vélo couché, avec le même effort, vous roulez à 35-40 km/h. Donc ça change aussi la notion de distance, d'autonomie. Donc si on mettait en place l'infrastructure qui va bien, ça répond bien sûr jamais à la totalité de la problématique des transports, mais ça répond à une partie de la problématique. Et au niveau des gaz à effet de serre, au niveau de tous les problèmes écologiques que l'on connaît aujourd'hui, c'est une partie de la solution. Alors comme vous avez un centre de gravité qui est très bas, vous avez aussi des tricycles. Pour ceux qui sont frileux, qui veulent une carrosserie, il y a aussi des solutions. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent penser c'est ringard.
Savoir
ce qu'on veut. Alors donc j'ai parlé de la complémentarité entre les bus et vélos. On a parlé tout à l'heure de la gratuité des transports collectifs. Il y a un chiffre qui avait été cité qui était de 2/3, 1/3 au niveau du financement des transports collectifs. Effectivement, bon, moi les chiffres que j'avais relevés étaient sensiblement identiques. Ça varie en fait d'une région à l'autre. En Picardie, d'après ce que j'ai compris, ça serait plus près des 75% qui sont à la charge de la collectivité et 25% qui sont à la charge du client. En sachant que sur les 100 euros qui auront été dépensés, il y a 15 euros qui sont pris pour la billetterie, la comptabilité, le contrôle, etc. Donc si sur ces 100 euros, vous enlevez 15 euros qui financent les tickets, etc., il vous reste plus que 85 euros. Alors, de 75 à 85, l'effort n'est pas bien grand pour que les transports collectifs deviennent gratuits de façon généralisée.
Ça marche pas. Ça marche que pour les petites villes.
Ça marche que pour les petites villes.
Ouais, il y a plein d'articles là-dessus. Justement, il y a dans les petites villes que le coût de tarification est supérieur à la perte de recettes qu'occasionne la suppression de la tarification. Enfin, il y a plein de gens.
En incluant les abonnements, les transports avec abonnement, en incluant les 50 euros de subvention de l'État au niveau des abonnements pour.
Il y a des experts en économie qui ont épuisé le sujet. Et en plus, il y a d'autres raisons qui font que le transport collectif doit être gratuit. C'est que s'ils sont gratuits, vous payez, donc vous pouvez être exigeant. Donc il y a moins de dégradation aussi.
Oui.
Et puis aussi ça permet aux gestionnaires de connaître les origines, destinations, tout ça. Donc c'est un outil de gestion assez performant, le ticket par le savoir comment. Parce que sinon il faudrait lancer d'énormes enquêtes ménages, d'énormes enquêtes de déplacement pour savoir connaître la mobilité et savoir comment les gens se déplacent et pouvoir y répondre.
Et ça vaut ces études économiques non probantes valent également pour des réseaux de métro. Avec tous les investissements onéreux qui ont été faits pour les portillons, empêcher les fraudeurs de passer par-dessus, par-dessous, etc. Tous ces coûts ont été intégrés pour que ce soit rentable de tarifer.
Dans Là, il s'agissait uniquement d'une étude sur les réseaux d'autobus. Donc, parce que le réseau de métro, alors là, du coup, des externalités positives.
Parce que j'avais entendu parler
des effets d'agglomération
de choses sur le métro, enfin le métro parisien, sur lequel effectivement, vu qu'il était déjà subventionné, enfin, à hauteur de 75%, et les coûts, effectivement, de ce qu'on appelle, l'économie s'appelle les coûts de transaction, ça, rendre marchandisable ce service, avoisiner les 15% effectivement des coûts autour, ce qui était assez colossal. Et donc, voilà, j'avais entendu la même chose à Paris, le métro.
Je vous enverrai.
Ok, oui, ça m'intéresse.
À titre, oui.
Quand vous rencontrez la municipalité, est-ce que vous arrivez à fixer des objectifs précis et à faire des demandes claires? Parce que toute demande floue n'aboutit pas. Est-ce que vous avez chiffré, est-ce que vous avez des objectifs de nombre de kilomètres de pistes cyclables, est-ce que vous avez des objectifs précis?
On n'a pas pu leur fixer d'objectifs précis. On leur a demandé, par exemple, on leur a proposé de mettre en place ce qu'on appelle les sas vélos. Hein, les sas vélos, ils se trouvent là quelque part sur ce site aussi. Les sas vélos, ce sont ces... Le logo, le dessin du vélo qui est dessiné sur la route quand on arrive à un feu. Ce qui fait que la voiture, au lieu de s'arrêter juste avant le passage protégé, s'arrête à 2 mètres en retrait, de façon à permettre aux cyclistes de s'arrêter devant la voiture qui est arrêtée à un feu, ce qui permet aux cyclistes de reprendre son équilibre avec une meilleure sécurité que s'il est à côté d'une voiture qui va le frôler. Au moment du démarrage, le cycliste a toujours un moment assez bref, mais... Oui, il faut qu'il retrouve son équilibre. Donc cette proposition avait été faite par Écolo d'ingénieurs à la mairie de Compiègne, qui l'a mis en place. Alors, ça doit être la rue des États-Unis ou boulevard des États-Unis, je ne sais plus. Ils ont créé une piste cyclable qui n'a pas été faite à notre demande. Ça, c'était quelque chose qui était déjà programmé. En revanche, ce qu'on leur a demandé, c'est de prévoir dans un premier temps, en quelque sorte, un périphérique cyclable autour de Compiègne, avec un axe nord-sud et un axe est-ouest, déjà dans un premier temps. Voilà. Mais en termes d'échéance, il nous avait indiqué qu'il confiait une étude à l'agence d'urbanisme Oise-la-Vallée en septembre, et que donc en décembre 2007 serait déjà proposé un premier résultat d'étude. Bon, certainement que par manque de temps, ils n'ont encore pas pu présenter de résultats.
Voilà. Pas leur demander pour les élections.
Je crois qu'au niveau des élections, ils sont très occupés, ils ont l'esprit.
Justement, c'est le bon moment.
Oui. Enfin, de toute façon, on va retourner les voir, c'est sûr. Voilà. À titre d'exemple, à propos de la gratuité des transports publics, en Belgique, par exemple, les transports publics sont gratuits sur la totalité du pays, que ce soit le train, le tram, le bus, pour les moins de 12 ans et les plus 65 ans. Et les personnes travaillant pour l'État dans le cadre de leur emploi. Parce que quand vous avez un fonctionnaire français qui, dans le cadre de son travail, doit prendre les transports publics, eh bien, il va sortir des sous de sa poche, il va se faire rembourser. C'est de l'argent qui sort de la poche de l'État pour rentrer dans la poche de l'État. Si je prends par exemple le cas de la SNCF, et les Belges font différemment. Le fonctionnaire montre qu'il est fonctionnaire en mission, il prend le train par exemple gratuitement. Ça fait des transactions financières
contre la gratuité quand même.
Comment ?
Les économistes sont souvent contre la gratuité, donc je pense qu'il va vous agacer. Là.
Oui, mais là il s'agit, c'est l'État.
Parce qu'il n'y a rien de la gratuité n'existe pas, en fait.
Mais non, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais quand c'est l'État qui paye à l'État, quel est le sens de la chose ? C'est du papier pour rien, non ? C'est ce que se sont dit les Belges, et ils ont répondu de cette manière-là. Si on prend toujours le cas de la SNCF, la SNCF a un budget de fonctionnement annuel qui est de l'ordre de 20 milliards d'euros. Sur ces 20 milliards d'euros, il y a 12 milliards d'euros qui sont une dotation de l'État et un peu plus de 8,8 milliards d'euros qui sont donnés, en fait, obtenus par le prix du billet. Alors ça, la source, c'est un livre dont le titre c'est « Écologie, la grande arnaque ». Bon, quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit « il faut que je lise ». Et donc, c'était quand même très intéressant. C'est là qu'on... c'est ça ma source au niveau des chiffres, quoi. Ce livre-là se base sur l'idée, pour dire que l'écologie est une grande arnaque, sur l'idée que la tonne de CO2 annuelle vaut aujourd'hui 20 euros. Donc que tout effort visant à éliminer, à éviter une tonne de CO2 par an doit coûter moins de 20 euros. Si ça coûte plus de 20 euros, c'est un effort qu'il n'est pas utile de faire. Voilà la thèse de l'auteur.
Si je me permets, là, je vais tenir pour une fois un rôle positif d'économiste. C'est un raisonnement totalement primaire de l'économie, ça. Puisqu'encore une fois, ça prend en compte le rendement privé, non pas le rendement social d'une activité. D'accord ? Donc, de surcroît, il fait référence. Quel est le prix ? Mais le prix, pas uniquement le prix du marché, quel est le prix social et quel est le prix environnemental, en incluant toutes les externalités négatives, de la tonne de CO2. On n'est sûr que d'une seule chose, c'est qu'a priori, il n'y a aucune chance qu'il coïncide avec les 20 euros, d'une part, et on est sûr uniquement d'une autre chose, c'est que ça ne va pas rester à 20 euros.
C'était à 1 euro il y a quelques années.
Oui, bien sûr, mais il y a une fluctuation telle, et pour l'instant, c'est un marché qui n'est absolument pas à l'équilibre, et c'est un faux marché. C'est un faux marché. Donc, enfin, en tout cas, le marché, c'est un pseudo-marché. Mais en fait, l'idée même qu'il puisse y avoir un marché de CO2 est extrêmement controversée. Elle ne peut pas être prise comme une donnée en soi absolument objectivée, et en tout cas pas comme une donnée économique. Un indicateur parmi d'autres, soit.
Oui. Mais d'après la thèse de ce livre, donc il y a, quand la tonne de CO2 était à 1 euro, il fallait surtout ne rien faire. Parce que pour 1 euro, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, c'est 20 euros. Si demain c'est 100 euros, alors là on va avoir, ça va ouvrir des perspectives phénoménales.
Pour peu que le marché et le prix soient un bon indicateur de la qualité et de la pertinence du bien. Ce qui est une version effectivement exclusivement orthodoxe en économie et de connotation fortement d'idéologie néolibérale. Je ne parle même pas de théorie néoclassique. Donc là, si vous tenez un raisonnement comme ça, vous avez le droit, mais il faut effectivement le contextualiser par rapport à un parti pris idéologique, plus même que théorique particulier. Le prix serait un bon indicateur de la valeur des choses.
C'est la thèse de l'auteur. Personnellement, je suis en total désaccord avec l'auteur.
Alors, c'est vous qui m'avez éveillé à ce livre, et donc j'ai effectivement été regardé dedans, et j'ai constaté, un, qu'il n'était pas aussi anti-écolo qu'il pouvait le faire paraître, puisqu'il militait pour une certaine forme de gratuité des transports publics, et d'autre part, il faut voir effectivement qualifier quelle est la source. Et j'ai été surpris de voir qu'effectivement, il avait été longtemps président de l'Automobile Club de France.
Sur la SNCF, je pense que vous avez tort. La SNCF, depuis quelques années, est un épic et assujettie en plus des réglementations européennes. Donc, on a mis en place des comptabilités séparées, transparentes, entre justement les infrastructures et les services. Et la SNCF, maintenant, est rentable, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un an,
oui, elle est
rentable. Dans les comptes, hein, alors maintenant, peut-être qu'il y a des
tout dépend de ce qu'on entend par rentabilité.
Rentabilité financière, j'ai trouvé.
Dans ce livre, il est dit que l'État injecte 12 milliards d'euros.
Non, c'est...
Alors le livre, la source du livre est peut-être mauvaise. Le livre mentionne...
Ce qui est compliqué, c'est que vous avez RFF qui reprend la charge les charges de retraite des anciens cheminots. Et RFF qui, en plus... finance la construction des infrastructures. Donc de fait, RFF est subventionné. Mais c'est tout à fait compatible avec la théorie économique qui veut justement commencer par les infrastructures et les services. Mmh. Mais la SNCF n'est plus qu'une société de services et elle est rentable. Donc elle n'a plus de subvention en commande.
La SNCF seule, effectivement, bon, alors après, elle est mise en concurrence avec les autres entreprises comme la Bundesbahn ou bien... ceux qui veulent bien faire rouler du matériel ferroviaire sur le réseau français ferré, c'est bien ça.
La SNCF est mise en concurrence à deux niveaux. C'est au niveau du transport de fret, puisqu'il y a même des entreprises comme Keolis qui commencent à faire le transport de fret, et éventuellement un jour, peut-être au niveau du transport régional, au niveau des TER. C'est-à-dire C'est-à-dire que dès maintenant, les régions peuvent, si elles veulent, faire appel à un exploitant qui ne soit pas les SNCF. Personne n'a franchi le pas pour l'instant en France. Mais une région pourrait le décider, pourrait dire j'en ai marre de la SNCF et je faire appel à un exploitant. Pour les TER, pas pour les nationales.
Donc, pour en revenir sinon au vélo, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il a été évalué que le coût de, comment dire, le coût des infrastructures dans une ville, c'est la ville donc, qui paye. Quand la ville doit payer une infrastructure, par exemple des places de parking, des routes, etc., par personne transportée, ça coûte 4 fois plus cher que pour des vélos. Voilà. Donc, si on, c'est une bonne motivation aussi pour une ville d'essayer de ne pas favoriser que la voiture, mais de penser un peu aussi à faire de la place au vélo, ça lui coûtera moins cher. C'est une bonne affaire pour la ville. Oui. Essayer de répondre à ça, dans notre démarche, on demande aux acteurs immobiliers de prendre en compte la possibilité de garder son vélo chez soi. Par exemple, quelqu'un qui habite dans un HLM, les trois quarts du temps, au troisième étage sans ascenseur, ne sait pas quoi faire de son vélo, quoi, à part peut-être le coincer dans les toilettes, bien embêté. Quoi. Donc, on va essayer d'inciter les organismes d'HLM de prendre en compte cette problématique de façon systématique. Et on va inciter aussi les mairies qui délivrent les permis de construire de ne les délivrer qu'à condition que ce soit pris en compte. Mais bon, pour ceux qui existent, on ne changera pas le monde en un jour.
La qualité d'un antivol, c'est le temps nécessaire au fait de le couper. C'est uniquement une question, c'est plus long. Voilà. Et au-delà, je crois, d'un quart d'heure, en fait, tous les antivols peuvent être coupés.
Si on
se
détient un quart d'heure pour couper, les gens vont choisir les vélos qui ont des antivols moins chers.
Hier soir, nous avons eu une entrevue avec une association qui vise à mettre en place sur Compiègne un système de location de vélos électriques, scooters électriques, qui serait d'abord, dans un premier temps, réservé aux personnes qui sont socialement les plus défavorisées, de façon à ne pas non plus contrarier le commerce classique. Et donc, si ça peut effectivement se développer, il y aura plus de cyclistes, et plus il y aura cyclistes, effectivement, plus la mairie se dira « Bon, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose ». D'ailleurs, vous êtes tous invités, effectivement, j'en tiendrai compte. Et si vous avez des références, faudrait, bon, je tâcherai de. Je chercherai. Parce qu'effectivement, pour ajouter justement sur ce site qui est un moyen de communication parmi d'autres, un maximum d'idées, et puis on est preneur pour toutes les bonnes idées, hein, y a pas de problème. Le but, c'est de faire avancer le schmilblick, comme disait quelqu'un.
Hein. C'est quoi le site ?
C'est HTTP, alors attendez, c'est vélo urbain.
Attaché.
Oui, tout attaché, sans les 3 W. Ça,
attendez. Je l'ai mis en plein écran, il faut aller là-haut, il faut faire options, affichage, etc. F11, oui, mais je crois que ça marche pas.
Voilà, ça apparaît là. Vélo urbain, vélourbaincompiègne.free.fr. C'est un site qui est en cours d'évolution, hein, on le fait évoluer régulièrement.
Sinon, oui, j'avais une remarque au sujet des vols de vélo. J'ai été longtemps à Versailles et ils expérimentent des parkings payants pour vélo, enfin, sur la même image que les voitures. En gros, c'est un local. En gros, on a un badge et on a accès à ce local, on paye un abonnement. Et il n'y a que ceux qui ont le badge qui peuvent accéder au local. Mettre le vélo, scooter, enfin, tous les deux ronds. Et c'est un local qui est surveillé, enfin l'accès est surveillé. Donc ils expérimentent ça à côté d'une des grosses gares de Versailles. Et donc c'est une idée, et apparemment, enfin, moi j'ai toujours vu plein ce parking, donc apparemment ça a l'air d'avoir du succès.
J'en ai vu un à Fribourg aussi, dans le sud de l'Allemagne. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne peut pas être multiplié.
Ça peut pas être multiplié, voilà. Mais bon, à proximité des grands pôles, par exemple, côté des centres de en centre-ville, à côté des commerçants, à côté de. Enfin, il y a des parkings souterrains en Compiègne, donc si ça peut être aménagé avec Vinci, mettre un endroit spécifique vélo, parce qu'ils font des emplacements moto aussi, je crois, dans ces parkings souterrains.
Je sais pas, j'y vais pas trop, comme je suis à vélo.
Oui, non, c'est vrai, non, mais si ça peut voir si la municipalité peut négocier ce genre de choses, apparemment ça a du succès, ça marche pas.
Alors à Paris aussi, Vinci a mis un système comme ça, je crois, où si vous garez votre voiture dans le parking, vous avez le droit d'un usage gratuit de vélo. Alors je ne sais pas si ça marche, mais j'ai vu ça. Ça marche bien ?
Ça existe. Ça existe.
C'est maintenant à Paris.
Mais alors le problème, c'est que.
Pour revenir sur le rôle de la licence, il faut un vélo. Le gros problème, c'est qu'une fois de plus, c'est un problème de transport qui en fait est un problème d'aménagement. C'est-à-dire qu'en effet, les villes n'ont pas été pensées pour avoir des locaux à vélo, il y en a pas assez. Par contre, vous pouvez demander à la municipalité d'accorder des prêts ou avoir des subventions pour les copropriétés qui rachètent un local et qui le transforment en local à vélo. Enfin, moi où j'habite, en tout cas, la copropriété a décidé de racheter un local et on l'a transformé en local à vélo sans même avoir de subvention, tout simplement parce que ça donne de la valeur à notre propriété, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, justement, sont à la recherche de ce type de service. Ils se disent, je veux avoir un endroit où mettre mon vélo et en train de. Ça devient un atout, quelque chose qui a un coût relativement.
Mais bon, ça c'est dans le cas d'une copropriété, mais oui. Dans le cas d'un bâtiment HLM.
Là, il faut imposer les choses à l'avance. Là, mais là, vous avez il faut rentrer en contact avec les offices HLM qui travaillent beaucoup sur des agendas 21 avec des copropriétés, avec des syndicats, et eux, ils peuvent inclure ça dans leurs agendas 21.
Oui. On va avancer dans cette direction-là aussi, ouais. Sans problème. Je ne sais pas si vous avez. D'autres questions ?
Sur les prix des beaux vélos que vous nous montrez par rapport à un vélo classique, alors, quel est l'ordre de grandeur, pardon, pour un vélo assistance électrique ?
L'ordre de grandeur, on va dire, pour avoir un vélo électrique correct, c'est 1000 euros. Voilà. Vous avez des vélos à 600 euros, vous en avez à 2500 euros.
Alors pour 2500 euros, vous allez avoir un vélo à récupération d'énergie en phase de décélération. C'est pas tellement intéressant parce que vous récupérez 10% de l'énergie. Et encore, ça dépend du terrain. Vous voyez, en montagne, ce serait éventuellement rentable. Mais ici, c'est pas tellement valable. Si vous avez un vélo électrique à 600 euros, vous risquez d'être déçu parce que vous allez avoir le bas prix fait qu'ils ont rogné sur quelque chose. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la réglementation européenne impose de ne pas dépasser 25 km/h. Donc ça, c'est la règle. Le moteur ne peut s'enclencher que si vous pédalez. Si vous arrêtez de pédaler, le moteur ne fonctionne pas. C'est la règle européenne. Et la puissance électrique du moteur ne doit pas excéder 250 watts. Alors vous avez des vélos pas chers, à 600 euros, vous avez un moteur de 100 watts ou 150 watts, vous prenez un vélo classique, ça vous aidera de la même manière, un vélo sans moteur. Quoi. Donc vous voyez, le mien je l'ai payé 1000 et quelques euros, 1050 euros il y a 5 ans. Bon, aujourd'hui il fonctionne toujours, très très bien. Alors c'est une batterie de plomb, c'est lourd, mais je ne l'ai jamais changé. Une batterie plomb, ça vaut 130 euros. Une batterie lithium-ion, ça vaut 600, 700 euros. Et le problème de la batterie lithium-ion, l'avantage, c'est qu'elle est très légère, mais le problème, c'est que le jour où vous la changez, ça coûte très cher. Et au niveau des cycles de charge-décharge, elle est beaucoup plus difficile à manier. C'est-à-dire, déjà, elle a un nombre de cycles de charge-décharge qui est réduit par rapport à une batterie plomb. Elle a un effet mémoire. La batterie plomb n'a pas d'effet mémoire. Alors la batterie plomb est lourde, mais il ne faut pas oublier que c'est le vélo qui vous porte et ce n'est pas vous qui portez le vélo. Parce qu'à ce tarif-là, si on avait cette logique-là, on n'irait jamais en voiture parce que la voiture est très lourde. Et heureusement que c'est elle qui nous transporte et pas nous qui la transportons. Donc voilà, c'est pour répondre un petit peu aux arguments.
Enfin, c'est difficile pour mademoiselle, par exemple, à monter son vélo dans son appartement.
Oui, avec un vélo électrique, elle aurait du mal. Ou alors, là il faudrait prendre un vélo à batterie lithium-ion, c'est sûr. Eh oui, mais bon. Nous sommes tous inégaux dans notre vie. On est inégaux à la naissance, on est inégaux pour tout. On a de la chance dans un domaine, pas de chance dans un autre. Donc il n'y a pas d'égalité. On a déjà du mal à avoir de l'équité, alors l'égalité. Voilà. Oui. Voilà. Je vous remercie.
Merci à tous.
Bien. Bien, on remercie tous les participants, non seulement les intervenants, mais également le prétendu public qui a effectivement été extrêmement mobilisé. Et pour ceux qui se sont inscrits non seulement au séminaire proprement dit, mais à l'UVDD01, que ce soit au sein du TC, dans le master ou autre, eh bien rendez-vous dans ce cas-là demain matin à 9h, jusqu'à 12h30 à peu près au max.
C'est où, c'est
je crois, dans les mêmes lieux, sur le rouge, on verra.
Aujourd'hui, c'était super, on a un intervenant, on est en train de se faire.
C'est très varié. Et puis même, c'est un peu frustrant au bout d'une heure de devoir arrêter.
Ouais,
à chaque fois, on a toujours un problème.
Oui, alors là, il faut qu'on résolve ce problème. Et moi, j'avais l'idée d'un système de sécurité SAS, c'est-à-dire sécurité, alarme, sécurité. Vous pouvez le donner, ça fait du bruit, et il y a encore...